Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Passe ton agrég, le podcast qui vous accompagne pendant votre préparation à l'agrégation interne d'histoire-géographie. Après 11 mois sans épisode, je reprends la parole sur le podcast afin de diffuser la visioconférence que nous avions tenue avec les modératrices du groupe Facebook Agrégation interne d'histoire-géographie pour la préparation des oraux. Mais avant cela, j'ai des informations à vous donner et des appels à vous lancer. Alors d'abord, pour ceux qui écouteront cet épisode au moment de sa sortie, je voudrais dire toutes mes pensées à ceux qui ne sont pas admissibles cette année alors qu'ils l'espéraient de tout cœur. Ceux d'entre vous qui m'ont contacté, qui m'ont posé des questions, qui se sont impliqués, qui ont travaillé, qui ont fait des sacrifices toute l'année, cette année, parfois l'année précédente. Je sais à quel point c'est difficile et j'aurais aimé vous transmettre tous les témoignages de ceux qui ont échoué comme vous et qui ont réussi l'année suivante ou encore l'année d'après. Donc je sais à quel point c'est difficile, mais vraiment je veux vous dire de garder courage, de ne certainement pas prendre ça de manière personnelle, parce que ce n'est pas parce que vos notes sont mauvaises que vous êtes un mauvais professeur, ce n'est pas cela qu'on évalue. Donc voilà, je sais que c'est très difficile et je vous envoie tout mon soutien et tout mon courage. Pour ceux et celles qui sont admissibles, félicitations. J'ai été ravie de lire tant de noms de personnes qui m'ont écrit, qui m'ont demandé des ressources parmi la liste des admissibles. Bravo à chacun, bravo à chacune. On va rester ensemble dans les semaines qui viennent pour cette préparation que je vous souhaite absolument enthousiasmante, comme elle l'a été pour moi. Je voudrais vous remercier, chers auditeurs et chères auditrices, d'être aussi impliqués pour faire vivre le podcast. Vous êtes très nombreuses et très nombreux à m'envoyer des mails, à poster des commentaires sur le site. Je vous encourage vraiment à continuer. Lorsque vous avez des questions à poser, de préférence, faites-le sur le site de manière à ce que les réponses que j'apporte à vos questions puissent bénéficier à tous les candidats de votre année ou des années suivantes. N'hésitez pas à poser des questions via Twitter, via Facebook également. J'en profite pour préciser que si vous ne recevez pas de réponse dans les 10 jours qui suivent votre message, n'hésitez pas à réitérer votre demande. Ça arrive que je sois ensevelie sous une flopée de commentaires indésirables et parfois j'en supprime par dizaines, donc ça peut m'arriver de supprimer des commentaires que vous auriez laissés et qui n'étaient pas du tout indésirables. Alors pour cette raison, n'hésitez pas à réitérer votre demande si elle reste sans réponse trop longtemps. Maintenant j'ai un appel à vous lancer. Vous avez sûrement commencé à passer des oraux blancs dans le cadre de vos formations, et le rythme va certainement s'accélérer dans les semaines qui viennent. Je vous serai très reconnaissante de m'envoyer les sujets qui vous sont donnés dans vos formations, ainsi que les sujets sur lesquels vous passerez à Chalon. Envoyez-moi des mails, postez des messages sur le site ou identifiez-moi sur Twitter. Cela me permettra de mettre à jour ma banque de sujets pour les candidats des années suivantes. Merci beaucoup. Dernier appel avant de passer à l'épisode. Je vous appelle à soutenir Passe ton agrég. Passe ton agrég, c'est un site, un compte Twitter, un podcast qui m'a demandé des heures d'enregistrement, de montage, de communication. Je suis très heureuse qu'il soit utile à ceux et celles d'entre vous qui préparent le concours. Alors pour soutenir Passe ton agrég, déjà tous vos messages de merci sont un très grand soutien. Toute la communication que vous pouvez faire par le bouche à oreille, par les réseaux sociaux et qui font connaître le podcast sont aussi très utiles. Et il est aussi possible de soutenir financièrement Passe ton agrég. C'est un travail que je mets à votre disposition gratuitement. Et si vous voulez exprimer qu'il vous a été utile, une participation de soutien qui me permet de financer mon matériel, l'hébergement du site, sera une reconnaissance très largement appréciée. Allez, assez parlé, maintenant place à cette visioconférence organisée avec le groupe Facebook Agrégation interne d'histoire-géographie qui visait à vous donner des conseils pour préparer les oraux. Cette visioconférence était organisée en deux parties. Bien sûr, elle était très libre et puis nous avons répondu aux questions posées par les auditeurs dans le chat au fur et à mesure. Dans la première partie, nous y relations de manière très concrète le déroulement des oraux, depuis la visite de la bibliothèque la veille jusqu'au passage, donc avec le tirage du sujet, le quart d'heure de préparation, le passage en bibliothèque, la suite de la préparation et le passage devant le jury. À chaque fois, nous avons abordé le plus possible des points concrets, nous avions toutes les trois eu des expériences différentes, et les questions des auditeurs nous ont permis d'aller assez loin dans le sujet. Et dans un second temps, nous avons donné quelques conseils de préparation pour les semaines qui vous restent. Je vous laisse écouter cette séance et je vous souhaite une préparation enthousiasmante, une très très belle période de votre vie. Bonne écoute.
Bonsoir à tous. On peut peut-être très rapidement se présenter si certains ne nous connaissent pas. Valérie, toi, tu es administratrice, modératrice du groupe Agrégation interne d'histoire-géographie. Mm-hmm. Et tu as passé l'agrég quand? Les oraux, à quel moment?
Alors, j'ai eu l'agrégation en 2019, donc juste avant l'informatique. Donc c'est pour ça que l'aide de Caroline, elle nous a semblé nécessaire à un moment donné, puisque Mouniati et moi, on l'avait eu avant, donc on passait encore sur les rétroprojecteurs avec les transparents et tout ça. Donc, et je suis allée 3 fois aux oraux à Chalon, j'avais pas de chance. Hein, donc, j'ai été admissible à chaque fois, mais je me faisais jeter lamentablement aux oraux. Donc, j'ai une certaine expérience de ce qu'il ne faut pas faire, donc que j'essaierai de vous partager. Hein, et puis voilà, donc en 2019, je l'ai enfin eu. Donc voilà.
Donc moi, je suis Caroline Pigache et j'ai réussi l'agrégation interne en 2021. Et l'année suivante, j'ai lancé le podcast Passe ton agrég pour partager mon expérience pour aider les candidats suivants. Et donc, il y a un podcast appuyé sur un site sur lequel il y a pas mal de ressources. Et là, j'anime un compte Twitter sur lequel je partage aussi des ressources de temps en temps et quelques conseils. Donc, deux parties ce soir, mais surtout, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Moi, je vais surtout animer la première partie et puis Valérie, peut-être plutôt la deuxième. Mais à chaque fois, quand une intervenante parle, posez vos questions sur le chat. Vous pouvez aussi, vous aurez un moment de questions à la fin de chaque partie. Donc, première partie, comment se passent les oraux? L'idée de cette présentation, c'est que vous puissiez vous projeter le plus possible et puis vous puissiez balayer toutes les interrogations que vous pouvez encore avoir. On en a relevé quelques-unes dans les commentaires que vous avez pu mettre ces derniers jours, donc on va essayer d'y répondre. Donc, comment se passent les oraux? Déjà, il y a un transport pour aller à Chalon, évidemment, qui est différent selon chacun. Il va falloir prévoir votre logement. On y reviendra si vous voulez. Pour l'instant, ça vous semble peut-être un peu lointain et abstrait. Donc, si vous avez des questions là-dessus, vous pourrez les poser, mais je vais plutôt m'attaquer aux oraux en tant que tel. Donc, la veille de votre premier passage, quand vous allez recevoir votre convocation, en fait, vous êtes convoqué pour 2 jours d'oraux. Et entre chacun des jours d'oraux, vous avez 2 jours de pause. Donc, en tout, vous arrivez la veille de votre premier oral et là, vous avez une visite de la bibliothèque. Puis, premier oral, 2 jours de pause. Vous pouvez revisiter la bibliothèque la veille de votre deuxième oral et deuxième oral. Donc, la visite de la bibliothèque, vous pouvez la faire 2 fois. La première fois, vous visitez tout parce que vous ne savez pas sur quelle matière vous tombez le premier jour. Et puis, la deuxième fois, vous visitez les salles de la matière sur laquelle vous n'êtes pas tombé. Y a-t-il des candidats qui ont passé l'agrégation en 2022? Enfin, si jamais il y en a et qui doivent actualiser ce que je vais raconter, n'hésitez pas à le dire dans le chat ou à prendre la parole parce que la bibliothèque, elle peut être organisée de manière différente chaque année. Donc, je vais vous dire comment c'était en 2021, mais ça peut aussi changer. Donc, les oraux se passent dans un lycée, le lycée Balien, qui est un grand lycée du centre-ville de Chalon. Et la bibliothèque, en fait, c'est une bibliothèque qui est mise en place pour le concours dans 4 salles de classe dans lesquelles sont disposés des livres. Donc, nous, on avait une salle générale avec les manuels scolaires, les périodiques, les ressources générales, 2 salles d'histoire, une salle antique, médiévale, moderne, une salle de contemporaine et de ressources transversales, et une salle de géographie. Donc, j'ai fait un épisode sur la visite de la bibliothèque en particulier, je ne vais pas tout reprendre évidemment, mais ce que je retiens de principal, c'est qu'il faut vraiment chercher les livres sur lesquels vous voulez absolument vous appuyer, les livres qui vont vous sauver la vie le jour des oraux. Donc, les grandes collections que vous prenez très fréquemment pour préparer vos oraux, les collections universitaires, les documentations photographiques, les magazines d'histoire. Et si vous aimez tel ou tel livre sur telle période, essayez de savoir où vous êtes pour gagner du temps le jour J. Et on a droit à une feuille. Donc moi, j'avais pris une feuille A3 pour pouvoir écrire tout ce que je voyais, essayer de comprendre comment c'était classé. Il y a des plans dans les tableaux des salles de classe sur lesquelles la bibliothèque est organisée. Donc on s'y retrouve quand même assez bien. Mais c'est vrai que, par exemple, pour le classement des périodiques, ça vaut le coup de comprendre comment c'est fait. Pour les magazines histoire, il y a des index. Donc, il y a des feuilles sur lesquelles sont notés tous les grands dossiers des magazines d'histoire. Donc, en fait, vous inquiétez pas. Hein, si vous cherchez, comme c'était mon cas, le numéro de l'histoire de Charlemagne, vous n'êtes pas obligé de sortir tous les magazines 20 années précédentes pour feuilleter à l'intérieur. Vous avez un index. Et donc, vous regardez tous les titres des magazines d'histoire. Vous vous dites, ah oui, c'était en 2014. Et comme elles sont, en tout cas, en 2021, elles étaient classées par ordre chronologique, vous pouvez retrouver. Mais ce classement, je sais qu'il est modifié chaque année. Donc, c'est important de comprendre comment il est fait. Et moi, ce qui m'avait beaucoup, beaucoup aidé, c'était de visiter avec deux autres candidates. Parce que on s'était, en fait, beaucoup aidé les unes les autres. On a toutes nos périodes de spécialité. Il y en a une qui avait fait de l'archéologie, donc elle savait très bien quel bouquin était vraiment très utile avec des bons documents. Il y en a une qui en histoire moderne, pareil, connaissait très bien et m'a dit ah oui bah non celui-là tu trouveras tel et tel truc utile. Donc en fait de visiter à plusieurs, ça avait vraiment, moi ça m'avait beaucoup rassurée sur les thèmes sur lesquels j'étais pas rassurée du tout. Voilà, n'hésitez pas à soulever les piles aussi, parce que moi je sais que la bibliothèque de géographie, alors j'espère que ce sera différent, mais il y avait vraiment des piles comme ça de livres empilés. Donc on voit celui qui est sur le sommet de la pile et puis les quatre qui sont en dessous, eh ben faut fouiller quoi pour aller les voir. Donc moi à la première visite de la bibliothèque, j'avais pas pu voir tous les livres. Et puis il faut aussi avoir à l'esprit que des livres sont, au moment où vous visitez, empruntés par des candidats qui sont en train de passer, sauf si vous êtes la première cohorte et que vous passez le premier jour. Mais sinon, il y a des livres qui ne sont pas en bibliothèque. Et dans ces cas-là, vous pouvez demander aux appariteurs qui sont dans les salles de bibliothèque, je trouve pas enseigner la mer, est-ce que c'est normal? Vous voyez, vous attendre à ce que ça y soit. Et là, il peut vérifier dans ses listes que ce livre est bien présent dans la bibliothèque normalement, mais qu'il a été emprunté par un candidat. Et vous pouvez même demander où il se trouve. Parce que autant pendant la visite de la bibliothèque, vous pouvez demander « Ah, ça c'est où ?» Autant pendant votre épreuve, vous ne pourrez plus demander aux appariteurs « J'ai vu tel bouquin hier, je ne me souviens plus où il était, est-ce que vous pouvez me dire où il est ?»
Le casque, du coup.
Ah si, mais tu m'as déconnecté.
Oh, alors, je vais couper le micro. Valérie, si tu as... Vas-y. Toi, qu'est-ce qui t'avait aidé?
Alors moi, j'avais, comme souvent, j'avais passé des cols avant et on était lâchés dans une bibliothèque universitaire avec à peu près le même temps horaire. C'est vrai que j'avais trouvé que c'était plus facile à Chalon parce que il y a le côté déjà classé, c'est-à-dire que vous avez un sujet sur le 16e siècle, les bouquins du 16e siècle, ils sont là en fait, ils sont tous bien classés au même endroit, sur la même table. Donc même s'il faut un peu fouiller. Alors, par contre, des fois, il faut faire attention parce qu'il y a des bouquins sur la colonisation, ils vont être dans un thème. L'histoire des femmes va être dans un autre thème. Donc, parfois, voilà, ou l'histoire de l'Angleterre dans une autre thème. Donc, des fois, il faut un peu jongler avec les thèmes. Mais grosso modo, moi, je sais que j'étais tombée sur Homère, l'Iliade et l'Odyssée. Je ne m'étais pas posé de questions. C'était la table de l'Antiquité grecque. Puis voilà, point, j'ai foncé dedans. Je sais que l'inquiétude des candidats aussi, alors moi, je la lève. J'ai jamais vu deux candidats avoir besoin des mêmes bouquins. Alors, je sais que il y en a peut-être qui vont contredire. Hein, ouais. Alors moi, pourtant, j'y suis allée trois fois. Hein, je vous l'ai dit, jamais. C'est-à-dire que quand ils vous disent lors de la présentation qu'ils font vraiment attention à pas donner dans la même demi-journée des sujets similaires pour pas que les candidats aient besoin des mêmes bouquins, des mêmes manuels, du même dictionnaire de l'Antiquité. Voilà. Alors pour moi, il y a un gros travail. Je fais un tout petit saut. Faut vraiment bien connaître les outils. Là, c'est super important parce que vous pouvez pas connaître tous les sujets possibles, imaginables, toutes les villes en géographie. Par contre, bien connaître les outils. Alors, je parle par exemple du dictionnaire du Moyen Âge, du dictionnaire de l'Antiquité, des dictionnaires de géo, les atlas, etc., les doc photos. Savoir que tout ça existe. Par exemple, moi, j'avais été frappée pendant un moment, je flippais à fond, tombée sur la Première Guerre mondiale. J'avais vu des sujets qui me semblaient atroces, hein, l'art, les intellectuels dans la Première Guerre mondiale, ou même l'année 1917. En fait, je m'étais rendu compte que toutes ces thématiques étaient dans le dictionnaire de la Grande Guerre, je crois, hein, ou dictionnaire de la Première Guerre mondiale. Et en fait, ça lève un stress parce qu'on dit que quand en fait on connaît des outils, bah, quand on tombe sur ce sujet-là, bah, on sait où aller chercher les informations. Et honnêtement, autant vous aurez pas le temps de lire une biographie de Charlemagne pendant de 400 pages pendant les 4 heures, autant un article d'un dictionnaire, c'est sur ça que vous allez foncer absolument. En fait. De toute façon, pour les oraux, vous aurez besoin des manuels de base. Et là, les manuels de base, le 16e siècle, le 17e, les carrés Hachette, les Hachette éducation, ils sont en plein d'exemplaires, même les Belins. Donc toi, ça t'est arrivé qu'on est venu prendre un livre pendant ta prépa. Ouais, bah comment ouais. Bah j'avoue que moi je l'ai jamais vu dans
Moi je l'ai vu dans ma salle de préparation aussi des appariteurs venir dire vous en en général les appariteurs s'arrangent pour que du coup vous ayez on vous le prenne pas tout de suite. On vous dit on vous laisse encore 30 minutes et dans 30 minutes on vous le prend et on fait patienter la personne suivante 30 minutes.
D'accord.
Alors, c'était comme ça que ça s'était passé avec mon voisin.
De faire les photocopies qu'on veut faire si jamais on doit prêter le livre entre l'un et l'autre. Hein.
Alors, on peut plus faire de photocopies. Il n'y a plus de photocopieuse. Par contre, il y a le scanner. Donc, vous pouvez scanner vos pages et les avoir sur votre clé USB sur l'ordinateur. Mais y a pas, on ne peut pas avoir des photocopies papier.
Ah, d'accord. Parce que nous, par exemple, si jamais on disait malheureusement on devait se partager un livre, on avait le droit. Moi, je sais que ma voisine... Limite, je l'avais un peu enviée parce qu'on lui avait fait 30 ou 40 photocopies du livre. Et résultat, je la voyais alors avec ses ciseaux et ses colles. Et puis, en fait, elle faisait ses petits montages, ses petits collages. Et résultat, elle avait fini un quart d'heure avant le temps imparti parce qu'en fait, elle s'était retrouvée à lire et puis à couper, à faire découper-coller. Alors, j'avoue que je ne sais pas si elle a eu la grève, mais voilà, tout compte fait, elle a terminé avant, ce qui m'est jamais arrivé, honnêtement. Je finis toujours pile poil et encore la conclusion généralement c'est assez voilà improvisé. Bon, je laisse pour la bibliothèque encore un petit peu. Enfin, moi, pour vous rassurer, les livres sont vraiment plusieurs exemplaires, les manuels généraux plusieurs exemplaires. Alors peut-être pas les les doc photos sont plusieurs exemplaires, les numéros d'histoire non, mais bon généralement on n'a pas besoin du même. Hein. Voilà, il y en a quand même beaucoup.
On en profite pour accueillir Mouniati, merci beaucoup.
La désolée pour le
deuxième modératrice du groupe Facebook qui arrive. Et d'ailleurs, effectivement, il y a des gens qui disent merci dans le chat. Moi aussi, je dis merci parce que c'est vous qui animez le groupe déjà à l'époque où il m'a beaucoup aidée. Je te laisse, si tu veux, dire ton nom, quand est-ce que tu as passé la Greg et les oraux et d'où tu viens.
Moi, c'est Mouniati. Moi, depuis cette année, je suis dans l'Académie de Bordeaux. J'ai passé la Greg comme Valérie en 2019, on l'a eu la même année. Et à cette période-là, moi j'habitais à Mayotte et le groupe m'a été d'une grande aide parce que très très loin, isolé. C'est vrai qu'à notre époque, le groupe était très 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 animé. Donc je ne sais pas où vous en êtes dans la discussion. Donc là, ça parlait de
bibliothèque.
La bibliographie.
La bibliothèque, okay. La visite de la bibliothèque.
Ouais,
on va avancer.
La visite de la bibliothèque, ok, d'accord.
On sera encore à Chalon au milieu de la nuit. Mais d'ailleurs, j'en profite pour dire que le groupe Facebook, c'est vraiment un super outil pour vous. Donc, faites-en un outil collaboratif au maximum. Posez vos questions, répondez-vous. C'est vraiment un super outil. Donc, sur la visite de la bibliothèque... parfois on a des vieux trucs, mais c'est parfois utile. Et puis c'est aussi là-dessus qu'on voit votre capacité à distinguer ce qui est périmé ou non. Parce qu'il y a des bouquins d'histoire qui sont toujours valables, et d'autres de géo. Il y a plein de vieilleries en géo. Effectivement, là, je pense que votre capacité à faire le tri est évaluée. Et je voulais aussi vous rassurer. En fait, elle n'est pas gigantesque la bibliothèque. Il y a finalement peu de livres, beaucoup moins qu'en bibliothèque universitaire. Il faut prendre ça comme une aide, en fait. Ça vous évite de vous perdre dans des bouquins. Et moi, je me souviens, quand j'avais préparé des oraux blancs en BU, je m'étais perdue parce que j'avais pris des dizaines de trucs et que ça, j'avais abouti à rien. Au moins, à Chalon, il y a un peu moins ce risque parce qu'il n'y a pas non plus profusion de livres sur des sujets spécialistes.
Entièrement d'accord. C'est mieux de passer à Chalon à son oral que de passer en bibliothèque universitaire.
Oui, très clairement. Alors, le jour J maintenant. Donc, le jour J, vous êtes convoqué, je crois, une demi-heure avant votre heure de passage. Donc, vous êtes avec une petite cohorte de candidats, 8-10 candidats, qui passent à la même heure que vous. Et donc, vous montrez votre carte d'identité, votre convocation. On vous explique grosso modo comment ça va se passer. Puis après, vous êtes emmené dans la salle de tirage de sujets. Donc là, votre cohorte, elle est divisée en deux. Il y a ceux qui vont passer en collège et ceux qui vont passer en lycée. Donc ça, vous savez si vous passez la première épreuve en collège ou en lycée. Et quand vous tirez votre sujet, vous découvrez si c'est de l'histoire ou de la géo. Là, vous devez recopier votre sujet. Puis ensuite, vous sortez de la salle. Il y a la deuxième partie des candidats qui va tirer son sujet, qui ressort de la salle. Et il y a un appariteur qui vous accompagne, vous et un autre candidat, jusqu'à la salle de préparation. Et là, vous vous asseyez où vous voulez. Il y a un ordinateur portable sur chaque table. Vous avez une clé USB. On vous explique comment démarrer l'ordinateur et comment utiliser la clé USB. Oui, bien sûr, la clé USB, elle est fournie. Elle est posée sur votre bureau. Et après votre passage, vous devez la laisser. Donc, vous ne pouvez pas partir avec. Vous savez si c'est collège ou lycée sur votre convocation. C'est marqué, par exemple, mardi collège, vendredi lycée. Voilà. Et donc, dans la salle de préparation, là, vous êtes enfermé pendant un quart d'heure avec juste votre ordinateur, vos feuilles de brouillon et votre petite tête. C'est ce qu'on appelle le quart d'heure de réflexion. Et ouais, c'est un quart d'heure super important. Alors, il y a un épisode sur lequel j'ai proposé un peu une répartition du temps pour toute l'épreuve. Donc, vous pourrez aller voir. Oui, alors, ouais, sauvegarder. Merci pour le conseil. C'est vraiment, vraiment super, super, super important. Ouais, parce que c'est arrivé, mais vraiment de nombreuses fois en 2021. Alors certes, c'était la première fois, mais que des candidats partent avec leur clé USB pour le passage à l'oral avec une clé USB vide. En fait, ils avaient mis leur diaporama sur l'ordinateur du bureau de l'ordinateur et ils l'avaient pas copié sur leur clé. Donc, ils sont arrivés devant le jury, ils n'avaient pas leur diaporama. Je vous raconte pas le stress, quoi. Bah, tous ceux que j'ai connus qui ont fait ça sont revenus là-dessus.
Le quart d'heure, il est vraiment important. Vous jetez pas, parce qu'il y en a qui se jettent sur des dictionnaires ou des choses comme ça. Définissez vraiment vos sujets. Moi, on m'a donné un exemple qui m'avait frappé à l'époque. Un sujet sur le Moyen-Âge, vivre au village. Et en fait, en col, on m'avait reproché de pas avoir assez essayé de développer le côté vivre, en fait. C'est-à-dire que vivre, c'est-à-dire qu'on y naît, on y vit, on y meurt, on y mange. Vous voyez, essayer de bien développer chaque terme, faire attention un peu comme on dit certes, hein, s'il y a un « et » qui sépare les deux mots, si dans votre… vraiment, chaque mot va avoir son importance dans le sujet. Moi, de mon expérience personnelle, j'ai détombé sur Londres capitale touristique. Et en fait, dès la première question que le jury m'a posée, ils m'ont dit, mais quelle différence faites-vous entre métropole et capitale? Et là, bah, je savais déjà que je m'étais plantée. Ce qui veut dire que, en fait, j'ai foncé sur un métropole, chose que, voilà, j'avais un peu l'habitude. Et le côté capitale, alors, je vous dis pas que je saurais mieux faire aujourd'hui, hein, mais, voilà, c'est-à-dire que j'ai fait un hors sujet, et puis voilà, ça pardonne pas, je me suis pris 4. Donc voilà, le premier quart d'heure, ça va vous éviter de faire le hors sujet, puis vous pouvez, par contre, commencer à vous questionner si vous avez le temps sur qu'est-ce qu'il me faut en bibliothèque. Aussi bien regarder si vous tombez en général ou en technologique, si c'est en lycée, quel niveau vous avez déjà accès au programme. Donc si vous n'êtes pas familier, vous pouvez regarder un petit peu qu'est-ce que ça va être et tout ça. Enfin voilà, vraiment éviter de vous planter, de partir et d'ailleurs de prendre des mauvais bouquins parce que vous avez traité le mauvais sujet.
Il y a sur un exercice qui peut vous aider pour gérer ce quart d'heure, c'est de vous entraîner à travailler des sujets, à réfléchir sur des sujets pendant 15 minutes. Normalement, la liste des sujets qui sont tombés l'année dernière et l'année d'avant sont connues. Et en fait, moi, dans mon cas, ce que je faisais seul ou avec un binôme de travail, c'est que on se retrouvait pendant une heure. Et à tour de rôle, en fait, on réfléchissait pendant 15 minutes au sujet tel qu'il était posé, aux intitulés, pourquoi c'était formulé comme ça à chaque terme. On essayait de fournir comme ça en 15 minutes une problématique, de penser tout de suite aux ouvrages, aux spécialistes, etc. Donc, ça, en faisant cet exercice-là, ça va vraiment vous aider pour bien vous concentrer pendant les 15 minutes et pas partir dans tous les sens. Et en fait, c'est une habitude à avoir, à toujours réfléchir à un sujet pendant 15 minutes.
J'ajouterais que quand vous prévoyez les livres dont vous avez besoin en bibliothèque, il faut que vous pensiez déjà à la transposition. Parce que parfois, je sais que c'est arrivé à certains de remonter de bibliothèque avec vraiment trop peu de documents accessibles aux élèves et ils étaient bien embêtés pour leur transposition. Donc, pensez bien aussi aux documents qui vont illustrer votre diaporama et sur lesquels vous allez pouvoir appuyer votre transposition. Parce que c'est des choses, en général, quand on voit son sujet, on pense d'abord problématisation, exposé scientifique. Mais si on pense pas à la transpo en bibliothèque, on peut oublier des choses. Et une fois que vous êtes parti de la bibliothèque, vous pouvez pas y retourner, quoi. Même si, oui, alors dans la salle des 15 minutes, oui, il y a des ressources. Il y a déjà les programmes scolaires de chaque niveau, les bulletins officiels, hein, pas les fichiers du SCOL. Et il y a aussi des dictionnaires, donc des dictionnaires de langue française et des documentations, des dictionnaires de géographie. Il y en a plusieurs. Est-ce que c'est gênant de prendre des documents, des manuels scolaires?
Non, mais attention. Ouais. Parce que des fois, ils peuvent, même une image, hein, elle peut avoir été coupée. Alors là, eux, ils ne vont pas la louper, ça. Hein. Donc, moi, j'avais eu un cours là-dessus. Et par exemple, une des images que je trouvais super célèbre de Christophe Colomb qui arrive débarquant sur la plage, en fait, elle est coupée à moitié dans les manuels, hein, dans la plupart, et je ne savais même pas. Parce que j'avais toujours vu que l'image coupée, et j'avais jamais vu l'image réelle. Alors là, bon, vous pouvez prendre des documents, des manuels, hein, des photos, n'importe quoi, ce que vous voulez, des photos. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est quand vous les prenez des atlas autrement ou des doc photos ou de manuels, ils peuvent être déjà commentés. Et ça, c'est génial parce que vous avez déjà tout bien. Parce que en fait, les documents sont pas des illustrations. Si vous en présentez un, ben, vous allez devoir en présenter au moins trois. Vous allez devoir bien l'exploiter, le présenter, le décrire, voilà. Et ça, ben, vous pouvez trouver dans les docs photos, dans les atlas autrement, beaucoup, même dans les Belins Histoire de France, vous allez trouver beaucoup plus facilement. Dans les manuels, vous allez les trouver bruts. Et voilà. Ça peut être un peu plus casse-gueule.
Donc, oui, après le quart d'heure de réflexion, vous descendez en bibliothèque, donc avec toute votre cohorte, et vous allez dans les salles que vous voulez. Voilà, moi, je passais d'abord dans la salle de ressources générales, là où il y a les manuels scolaires, les documentations photographiques et les magazines d'histoire, parce que ça me permettait d'avoir des bibliographies. Par exemple, sur Charlemagne, j'avais un numéro de l'histoire. Dans les dossiers d'histoire, vous avez une bibliographie. Donc, j'ai pu tout de suite voir qui étaient les historiens sur le sujet, les auteurs des documentations photographiques aussi. Et ensuite, quand vous allez en salle de discipline, eh bien, vous vous dites, ah oui, je peux faire confiance à un tel ou à une telle parce que je l'ai vu dans les bibliographies de l'histoire. Ah oui, j'essaye de te mettre en route, mais...
Oui, je sais, je te perturbe. Mais peut-être que ça, on peut
ouais,
pas.
Oui, mais t'es indiqué comme hôte, mais.
Ah ouais?
On verra. Oui, t'es indiqué comme hôte.
Bon, écoute, on verra quand il restera pas beaucoup de temps.
Ah, par contre, on peut peut-être parler d'un plan B parce que je vois que le temps de réunion, c'est marqué qu'il reste 6 minutes. Donc, on essaiera de relancer avec un lien.
Après, moi, je pourrais relancer avec un nouveau lien, mais en fait là Caroline a essayé de me mettre en haute mais j'ai pas la main sur le temps.
Les trois documents sont pas obligatoires, mais moi je dirais que c'est un peu entre guillemets le conseil qu'on m'a donné tout le temps, et quand je l'ai fait, je l'ai obtenu. C'est-à-dire que c'est un peu un document par grande partie. Le grand 1, le grand 2, le grand 3, ça fait un document, un document, un document. Et on m'avait dit, si possible, de prendre trois documents bien différents, mais ça peut être quatre, ça peut être cinq. Après, faut pas non plus trop les multiplier puisque faut bien les exploiter. Mais si vous avez par exemple, moi je sais que pour mon sujet sur Homère, eh bien, j'avais commencé par mettre un portrait d'Homère en parlant de lui, en le présentant. Et puis après, bah, je m'en étais resservie un petit peu plus tard. Mais vous pouvez déjà réexploiter le document à plusieurs reprises. Si c'est un texte, parler d'une partie, puis après d'une autre, d'une autre. Mais c'est vrai que essayer de varier les documents, iconographie, des textes.
En fait, montrez le bon prof que vous êtes aussi. Et donc, prenez les documents que vous aimez commenter avec vos élèves, sur lesquels vous sentez que vous avez une maîtrise. Vraiment, les oraux, c'était pour montrer le bon prof que vous êtes. La meilleure version de vous-même prof. Donc, si vous êtes un fan d'histoire des arts, prenez, si le sujet le permet, des tableaux. Prenez des tableaux statistiques si vous savez bien les exploiter. Si vous faites des cartes IGN avec vos élèves, allez-y, montrez-le au jury. Mais faites ce que vous maîtrisez, ce que vous avez l'habitude de faire en classe.
Surtout pas de cartes IGN si vous ne savez pas les maîtriser.
Ouais, c'est ça. Cartes IGN uniquement si vous les utilisez en classe et si vous avez l'expérience du commentaire de cartes assez récent. La bibliothèque, le passage en bibliothèque, oui, je vous... Alors, un autre conseil, c'est de penser aux ressources transversales, pardon, qui ne sont pas dans les...
Je ne vais pas répondre à la question qu'on vient de poser, c'est-à-dire, est-ce que on peut taper à l'ordinateur, prendre des notes à l'ordinateur pour après s'en servir, ou c'est tout à la main? Alors ça, je ne sais pas répondre, j'avoue. Moi, c'était tout à la main, mais toi, t'as connu.
Alors, moi, j'avais tout fait à la main. Après, le logiciel que vous avez, c'est PowerPoint. Donc, si vous voulez utiliser la version présentateur de PowerPoint, c'est-à-dire une version où au vidéoprojecteur s'affiche le diaporama, mais sur votre ordinateur s'affichent des notes que vous pouvez prendre sous la diapositive, ce dont j'avais pas du tout l'habitude, c'est possible, parce que c'est vraiment ce mode qui est utilisé sur l'ordinateur. Mais moi, j'avais pas l'habitude d'utiliser le mode où on peut écrire sous la diapo sans que ça se voit à la projection, donc c'est pas ce que j'ai fait. Moi, j'ai tout écrit à la main, mais je sais que le mode présentateur existe. Enfin, en tout cas, c'était celui qui était utilisé quand je suis passée. Donc, si vous voulez écrire à l'ordinateur, à condition que ce soit pas visible sur le projecteur, c'est possible. Oui, on peut utiliser l'ordinateur pendant tout le temps la préparation, et c'est Microsoft Office. Enfin, PowerPoint, la vraie version PowerPoint.
Après, si vous prenez des notes et que vous les prenez version papier, n'hésitez pas à écrire le numéro des pages sur le côté pour pouvoir retrouver. Vous allez écrire quelques mots là où vous avez trouvé des idées intéressantes. Pour les retrouver très vite, vous écrivez la page du livre pour le retrouver très vite quand vous allez préparer votre exposé.
Enfin, mais en fait... Enfin, moi, on a tous des techniques différentes, mais moi, j'écrivais assez peu, et mon exposé de géo, j'ai quasiment rien écrit sur mon brouillon. J'avais mes titres de partie, mais le corps de mon exposé, c'était vraiment l'analyse de mes documents et la mobilisation des notions qui m'étaient utiles pour commenter le document. Et en fait, j'ai repris des notions très simples et qu'on utilisait avec les élèves, mais j'ai défini mondialisation, métropole, émergence à chaque fois que j'en avais besoin, et je faisais du commentaire de documents un peu en direct au tableau. Peut-être ce que vous voulez dire. Parfois, en histoire, bien sûr, moi j'avais besoin d'écrire en histoire parce que Charlemagne, le détail de ces guerres, etc. Par moment, oui, j'ai besoin d'écrire. Mais si c'est reprendre des définitions que vous dites avec vos élèves, recopiez pas la définition. Enfin, la définition de métropolisation, je pense que vous la connaissez, que vous la maîtrisez quand vous arrivez devant le jury. Donc, gagnez du temps sur l'écriture. Faites-vous confiance et vous serez plus fluide à l'oral si vous lisez pas vos notes. Enfin, c'est mon avis. Il y a bien un tableau blanc pour écrire devant le jury, mais il faut prévoir ses feutres, amener vos feutres à tableau, parce qu'ils sont pas fournis. Et il y avait une autre question, une question qui m'avait été posée sur Twitter. Il va falloir que je la retrouve, mais qui était en lien. Mais oui, et pour remplir l'exposé scientifique, on m'avait demandé comment je faisais pour aller aussi vite, parce que moi, j'ai consacré que 1h30 en fait à remplir les parties de mon exposé scientifique, mais c'est que j'écris pas beaucoup. En fait, j'écris que ce que je suis pas capable d'avoir dans ma tête, c'est-à-dire les dates que je connais pas par cœur, les noms des personnages, mais tout ce qui est déjà dans ma tête que je suis capable de retenir de la préparation pour l'oral, je l'écris pas. Donc, pendant votre préparation, vous devez aussi faire votre diaporama. Donc, votre diaporama, il comprend un nombre libre de diapositives. Toutefois, normalement, il doit comprendre votre bibliographie classée. Au moins, je pense, les titres de vos parties ou comme vous voulez, en fait. Mais aussi les... Alors là, c'est juste une histoire de son. Il faut juste couper le micro. Le Fèvre, c'est couper le micro. Et... Merci. On va y arriver. Et donc, pour le diaporama, il faut que vous scanniez les documents que vous voulez projeter au tableau. Le scanner, vous pouvez y accéder autant de fois que vous voulez pendant votre préparation. Il y en a un par salle et vous êtes 8-10 candidats par salle. Donc, moi, à chaque fois que j'ai eu besoin d'aller au scanner, j'ai pu y aller, c'était libre. Normalement, vous n'avez plus accès au scanner 30 minutes avant l'heure à laquelle vous devez passer. Donc, il faut que vous ayez scanné tout ce dont vous avez besoin pendant les 4 premières heures et demie. Et donc, c'est scanné sous format PDF sur votre clé USB. En fait, la clé USB qui est sur votre ordinateur, vous l'enlevez. Vous vérifiez bien que vous avez sauvegardé votre diaporama pour qu'il n'y ait pas de souci. Vous allez au scanner et là, vos documents, vous posez en fait votre livre sur un scan. C'est comme une grosse imprimante, une petite photocopieuse si vous voulez. Et les pages se photocopient à la vitesse d'une, se scan à la vitesse d'une photocopieuse un peu lente. Et après, vous pouvez scanner autant de pages que vous voulez. Ça se scanne en un seul document, même si vous scannez plusieurs pages. Ça va faire un fichier PDF de plusieurs pages. Si vous voulez mieux vous y retrouver, vous scannez une fois, puis vous changez de page, puis vous réappuyez sur scan. Mais enfin, moi, je me souviens de mettre à retrouver avec des fichiers PDF qui faisaient 8-10 pages. C'était pas super simple. Et après, quand vous avez un fichier PDF, il faut faire des captures d'écran, copier-coller dans votre diaporama et rogner. Donc, ça prend un peu de temps. Et ça, c'est vraiment important de le prendre en compte dans vos entraînements parce que ça prend un petit peu de temps. Après, si vous n'avez pas le temps de scanner un document que vous avez absolument envie d'utiliser dans votre exposé, vous avez toujours le droit d'emmener votre documentation photographique ou votre ouvrage devant le jury. Et alors, à mon année, c'était pas autorisé, mais je suis quasiment sûre que l'année dernière, ça l'a été. Vous avez le droit de montrer votre livre au jury, de vous approcher de lui pour lui montrer tel document. Voilà. En tout cas, vous avez le droit d'emporter des livres devant le jury. Diapo de biblio avant de débuter l'exposé ou à la fin, j'ai vu les deux. Alors, combien de diapositives suggères-tu pour réaliser un diaporama équilibré correspondant aux attendus de l'exercice? Alors, sur le site Passe ton agrég, j'ai mis mes diaporamas d'oro blanc, si ça vous intéresse d'aller voir. Ils sont pas tous réussis, donc soyez indulgents, c'est pour vous montrer justement que j'ai progressé petit à petit et qu'au début, je savais pas faire des diaporamas correctement. Mais je pense qu'à la fin, j'avais une... peut-être 8 diapos pour la transpo et je sais pas, 15 pour la partie scientifique, mais c'est beaucoup, on peut avoir moins que ça.
Donc après, c'était possible de prendre un livre pour s'en servir comme support?
Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Ouais.
Oui, de toute façon, vous pouvez apporter les livres en salle d'examen.
Voilà, et donc dans le
d'ailleurs, n'hésitez pas, justement, je suis désolée de te couper, n'hésitez pas à en avoir justement un ou deux documents sous coude, parce que évidemment, vous écrivez pas tout, on a toujours du mal à juger, on a toujours peur de faire moins que le temps, et donc n'hésitez pas, entre guillemets, à avoir mis un document pour le grand 3B, pour le grand 3C, un document en plus, un petit texte à lire. Moi, j'avais lu un extrait de texte, alors pas forcément pour gagner du temps, mais parce que ça montrait quelque chose. Mais vous pouvez toujours prévoir un petit quelque chose. Si vous voyez que votre exposé scientifique, vous avez peur de manquer de temps, ou au contraire, vous savez qu'il y en a un que vous pouvez chanter parce que voilà, il ne faut pas trop dépasser. Il faut vraiment essayer de tenir le temps. Par contre, exposé scientifique, transpo, PEDA, je ne sais pas si ça a été dit. Mais faut vraiment une transpopéda qui est inexistante ou qui fait 2-3 minutes, vous allez pas passer. C'est un peu comme l'écrit.
Oui. Il y a une question sur la transposition doit se faire sur l'ensemble du sujet, de la leçon ou une partie. Alors, en fait, ça va dépendre de votre sujet et surtout, faites attention au sujet dans les coins parce que vous allez avoir des sujets ultra évidents. Par exemple, vous allez avoir Versailles ou Louis XIV et l'absolutisme. Donc, ça cale bien avec les thèmes du programme. Mais par exemple, moi, je connais quelqu'un qui est tombé sur le procès et l'exécution de Louis XVI en quatrième. Dit comme ça, on a l'impression que c'est pas quelque chose que on met en œuvre en quatrième. Sauf que c'est ce que lui a demandé le jury, et donc en fait, il faut quand même dans la transposition que le jury voit comment vous passez du sujet scientifique à la transmission auprès des enfants, même si c'est un sujet qu'on ne traite pas de manière classique ou apparente dans les programmes. Je donne un autre exemple, on connaît quelqu'un qui est tombé sur Richelieu, Richelieu et l'absolutisme. Là aussi, dans le programme, ça, tu sais à qui je pense, Valérie, dans le programme, c'est indiqué qu'il faut traiter ce thème en mettant en avant les figures des rois, sauf que là, le jury vous a donné un sujet dans les coins, et donc c'est à vous, en fait, de tout en répondant aux exigences du programme, de montrer comment ce sujet qui est un peu à la limite du hors-programme, vous le transposez. Donc là, ça va vraiment dépendre du sujet que vous avez.
Parfois, ça vous demande de...
Je pense pas que ce soit éliminatoire que le sujet il soit sur une partie ou sur la totalité. Je pense que, comme tu dis, dans certains sujets, vous n'arriverez pas à en faire une totalité, hein, de toute façon. Je pense du moment que tout est bien ficelé. Alors, évidemment, on dit toujours que c'est mieux, mais même à l'écrit, hein, parfois, c'était pas forcément si évident de mettre la totalité du sujet en transpo. Hein. Mais du moment que il faut que c'est un rapport quand même. Hein. Mais du moment que ce soit bien ficelé, je vois pas trop... vous seriez pénalisé. Si vous pouvez le faire, évidemment, il faut le faire. Mais si c'est un sujet qui est bizarre, vous ne pourrez pas le faire. Moi, j'ai eu l'Empire colonial britannique sous Victoria en quatrième. Normalement, c'est bien dit que l'Empire colonial, c'est ce français qu'il faut traiter. Et on pouvait parler du britannique pour parler des sociétés coloniales. Donc, je ne pouvais pas, de toute façon, englober la totalité de mon exposé dans la transpo.
Oui. En col, il m'est arrivé d'avoir eu comme sujet El Niño, le courant marin. J'ai fait une transposition sur le changement climatique et ses effets. Et en fait, c'est le thème qui m'a permis d'en parler. Mais quand j'ai fait la transpo, j'ai expliqué comment je mets en œuvre la séquence. Et après, je fais un focus sur cette thématique. Ce qu'il faut surtout pas faire, c'est de se dire « Ah, c'est pas un thème qu'on traite habituellement. » Je ne fais pas la transposition dessus, alors que c'est votre sujet. Là, vous ne répondrez pas à ce que le jury a demandé. Il y a quelqu'un qui demande s'il faut faire apparaître le plan. Moi, c'est obligatoire, en fait. Enfin, il faut penser que le jury, il voit plein de candidats. Et en fait, pour guider le jury et pour qu'il voit que votre propos est clair, le plan, il faut le faire apparaître dans le diapo. Moi, ce que je faisais, c'est que à chaque fois que je passais d'une partie à une partie ou d'une sous-partie à une sous-partie, je remontrais mon plan et même en fait, je pointais. Alors à l'époque, c'était avec comment on appelle ce truc là avec les transparents. C'était en 2019 et nous, on avait encore les transparents. Et à l'époque, en fait, je me souviens, je pointais mon stylo à chaque fois sur mon grand A, mon grand 2, etc. Donc là, avec le numérique. Moi, je vous conseille à chaque fois que vous passez, que vous allez présenter le grand 1, vous rappelez votre plan avec votre problématique dans une même diapositive. Quand vous passez du grand A au grand B, pareil, vous le remettez à chaque fois pour qu'il l'ait toujours en tête, en fait.
Dans mes diaporamas, je vous ai mis le lien vers l'article où je mets en ligne mes diaporamas. À la fin, du coup, je mettais. De toute façon, quand j'annonçais mon plan, je mettais une diapositive où il y avait tout mon plan. Grand 1, ABC, grand 2, ABC, grand 3, ABC. Enfin, ou autre. Hein. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de faire ABC à chaque fois. Et à chaque fois, je mettais en couleur la sous-partie que j'allais commencer. Et cette diapositive, je la remettais entre chacune de mes sous-parties. Donc, à chaque fois que j'avais fini une sous-partie, il y avait de nouveau mon plan général qui apparaissait avec surligné, mis en valeur la partie que j'allais commencer. Mais c'est vrai qu'en fait, les jurys, il faut imaginer qu'ils sont toute la journée devant les oraux. Moi, je suis passée en fin de journée et en fait, ils étaient vraiment fatigués, ça se voyait et fallait vraiment leur rappeler où j'en étais. Je pouvais pas leur en vouloir d'avoir besoin de ça, quoi.
Moi, vraiment, moi, quand je passais mes cols à Sévigné, ce que je faisais, c'est que je mettais, c'est la même diapositive où je mettais aussi ma problématique parce que en intro, ils ont pas le temps de bien la noter. Mais vraiment, soyez vraiment pédagogue, en fait. Sur c'est comme avec les élèves, en fait. Quand vous passez du grand 1 au grand 2, vous le rappelez, vous expliquez que vous passez du grand 1 au grand 2. Enfin, faites-le vraiment comme vous le faites en classe.
Oui, un sujet peut porter sur plusieurs thèmes d'un programme en géo, tout à fait. En terminale, par exemple, il y a des sujets qui portent sur la mondialisation et une ère du programme en particulier. Vous pouvez le traiter peut-être dans les mers et océans, si c'est un port. Vous pouvez le traiter... Il y a effectivement des sujets pour lesquels vous avez le choix du thème dans lequel vous les appliquez. On vous donne le niveau, mais ensuite, pour le thème, vous choisissez. Et d'ailleurs, vous choisissez aussi si vous le traitez en général ou en technologique. Si vous avez terminale, vous pouvez le traiter en terminale générale ou le traiter en terminale technologique. C'est à votre convention. Les programmes des séries technologiques sont aussi dans les salles de préparation.
D'ailleurs, dites-le tout de suite parce que de toute façon, sinon, ça va faire l'objet d'une question. Après, vous pouvez attendre la question si vous voulez, hein, mais... Ils vont vous demander de justifier pourquoi vous l'avez traité en général et pas en technologique. Et ils peuvent vous poser la question, qu'est-ce que vous auriez fait différent si vous l'aviez traité en technologique ou en général, en fait. Quelle activité vous auriez fait différemment. Ils peuvent aller assez loin là-dedans, dans le détail.
Au niveau du programme qu'on avait fixé, Caroline, on en est où là? On doit parler de quoi?
On en est toujours sur le reste de la préparation. Donc, on avait fait la partie scientifique, la transposition, là, le diaporama. Et dans le temps de préparation, il faut prévoir aussi un moment pour préparer vos affaires. Je vous conseille que quand l'appariteur vient vous chercher, vous devez partir tout de suite. Donc, c'est pas le moment de se mettre à enregistrer son diaporama, de classer ses feuilles de brouillon, de trier ses bouquins entre ceux que vous prenez, ceux que vous prenez pas, d'avoir vos feutres à tableau, de voir. Tout ça, faut que vous l'ayez fait avant. Donc, 10 minutes avant l'heure à laquelle l'appariteur doit venir vous chercher, vous préparez vos affaires parce que sinon, c'est trop stressant. Et moi, j'avais eu beau le faire, j'étais vraiment à l'heure quand l'appariteur est venu me chercher. Pour mon premier oral, le jury était énervé qu'il y ait du retard, quoi. Alors que c'était vraiment pas de mon fait, mais bon. Du coup, si vous prenez du retard par votre faute, vous risquez d'être encore plus stressé. Donc, voilà, prévoyez les 10 minutes pour ranger vos affaires.
Et prévoyez votre bouteille d'eau. C'est un peu l'essentiel, quoi. Prévoyez tout ce qui vous met à l'aise, les petits gâteaux, enfin.
Il n'y a pas de problème avec les trousses ou des choses comme ça. Moi, j'en avais même pas. J'avais tout un matériel dans un sac. Et puis, en fait, je prenais ce que j'avais besoin. Moi, je sais que j'appréciais beaucoup d'avoir un chronomètre à côté. C'est-à-dire que je le lançais et je savais exactement... j'avais déjà dépensé 1h15 de mon temps, 1h30 de mon temps, etc. Je le faisais... vraiment de cette manière-là.
Pour répondre à Mélanie, quand vous quittez la salle de préparation, vous emmenez avec vous juste ce dont vous avez besoin pour l'oral, mais en fait, vous êtes quand même un peu chargé entre votre clé USB, votre sujet, vos livres. Moi, j'avais une carte murale, je crois qu'il n'y en a plus maintenant. Mais en fait, vous êtes quand même un peu chargé, mais vous ne prenez pas votre sac et toutes vos affaires. Il y a une partie qui reste dans la salle de préparation. Et une fois votre oral terminé, vous revenez dans la salle de préparation et après, vous passez en bibliothèque, rendre tous vos livres et après, vous sortez. D'ailleurs, prévoyez ce délai si jamais vous prenez un train après votre dernier oral. Il vous faut bien 3 quarts d'heure quoi, avant d'être libéré après votre dernier oral. Enfin, 3 quarts d'heure, peut-être pas, mais bien une bonne demi-heure. Quoi.
Non, il faut pas mal de temps. Il faut rendre les livres, etc., récupérer sa carte d'identité. Ouais, non, non.
Donc, on arrive au passage devant le jury. Donc voilà, le moment où l'appariteur vient vous chercher, donc il vous emmène jusqu'à votre jury. Là, vous insérez votre clé USB dans l'ordinateur, vous projetez votre diaporama et vous commencez votre oral. Moi, je conseille toujours d'annoncer la manière dont vous allez procéder. Les rapports de jury disent qu'on a deux possibilités, soit faire une première partie exposé scientifique et une deuxième transpo didactique, soit de lier les deux, comme ça a été dit dans le chat, c'est possible. Mais moi, je vous conseille de le dire dès le début. Mon sujet, c'est Charlemagne. Je vais d'abord présenter un commentaire scientifique de ce sujet, puis je vous présenterai une transposition didactique en cinquième. Et comme ça, vous annoncez votre manière de faire, qui s'éclaire directement. Voilà, donc pendant votre présentation, vous êtes devant trois personnes. Le jury est composé de trois personnes, un historien, un géographe et une troisième personne qui peut être un inspecteur ou une inspectrice. Donc déjà, dites-vous que dans les gens qui vous écoutent, il y en a qui connaissent pas bien le sujet. Et c'est pas forcément d'ailleurs ceux qui vous font passer qui ont choisi le sujet sur lequel vous passez. Donc ça peut déjà vous rassurer. Et puis voilà, essayez de bien sûr de regarder tous les membres du jury. Et surtout, paniquez pas s'ils soufflent, s'ils sont fatigués. Ça veut absolument rien dire du tout. La réaction que vous pouvez interpréter ne signifie pas du tout que votre oral est réussi ou raté.
D'ailleurs, s'ils sourient, ça ne veut pas dire non plus que vous avez réussi. S'ils sont super gentils, super aimables, ça ne veut pas dire non plus. Il y a vraiment, on ne peut pas savoir. Par contre, c'est la posture qui est un peu intéressante. Je crois que tu viens de l'évoquer. Faut vraiment essayer de ne pas avoir l'air trop stressé. Essayer vraiment de montrer un peu d'assurance, d'avoir un peu d'être sûr de vous, d'être à l'aise, de bouger, d'être dynamique. De pas rester trop crispé derrière, par exemple, l'ordinateur et voilà, le vidéoprojecteur. Essayer peut-être de bouger, d'écrire des mots tableaux, de montrer des choses. Alors, pas évidemment d'avoir l'air comme une pile électrique, hein, mais voilà, de montrer quelqu'un de dynamique, de positif, de voilà, qui en jette un petit peu.
Ça, comme je pense en classe. C'est important. Comme en classe, en voilà. Fait.
Oui. Moi, c'est vraiment le conseil que je donnerais. C'est une fois que vous êtes dans la salle, là, il faut montrer le professeur que vous êtes. Et donc, toutes ces petites techniques qui font de vous le bon pédagogue que vous êtes, eh bien, en fait, faites-le. Je vous donne, je sais pas, moi, j'ai eu un sujet sur la société française et l'immigration. Alors, il se trouve que moi, je suis fan de foot et forcément, j'ai fait mon accroche sur Platini, Zidane et Mbappé, mais j'ai fait ça de manière vivante et j'ai rappelé les exploits de 86, 98. Et en fait, ce que je voulais, c'est qu'ils voient que la professeure que je suis, elle est comme ça. C'est qu'elle va se servir de quelque chose de la culture populaire pour transmettre quelque chose. Et je suis restée, en fait, dans ce qui me définit. Et je pense que vraiment, si vous avez... je suis aussi tombée sur l'Afrique du Sud et j'ai commencé par introduire en citant Mandela et en disant que... on m'a offert l'occasion de parler de l'Afrique du Sud. J'étais obligée de commencer par le grand Mandela. Vraiment, si vous êtes bon dans le récit du prof, montrez-le. Enfin, tout ce côté dynamique qui fait que les élèves apprécient vos cours, montrez-le. C'est vraiment le moment de montrer la prof ou le professeur que vous êtes.
N'hésitez pas à faire usage de vos feutres à tableau. Alors, pensez que si vous écrivez là où il y a votre diaporama, vous allez devoir effacer. Mais si vous commentez une carte, si vous avez un arbre généalogique à faire, n'hésitez pas à utiliser le tableau. Si en géographie, vous voulez illustrer une notion avec un petit schéma, ce que c'est qu'un littoral, par exemple, j'en sais rien, faites ça. Même pour répondre aux questions, n'hésitez pas à utiliser le tableau plan.
Ils peuvent vous coincer sur tout ce dont vous allez parler. Alors ça, ils adorent. C'est-à-dire que si vous utilisez un mot de vocabulaire, vous parlez de quelque chose, ils peuvent vous demander de définir. Hein. Moi, en fait, j'ai eu beaucoup de questions de définition dans mon sujet sur l'Arctique. Hein. Ils m'ont même demandé de définir banquise. Ils m'avaient demandé plusieurs termes justement en rapport avec le climat polaire, pergélisol et tout ça. Et j'avais parlé d'émergence. Alors là, ils se sont engouffrés dans le concept et tout. Et heureusement, je le maîtrisais plutôt pas mal. Et voilà, donc, ils m'ont demandé quand même pas mal de concepts de géo. Ils m'ont demandé pas mal de petites définitions. Et j'ai un grand ami à moi qui s'était coincé. Donc, il était Il parlait de la mangrove et en fait, ils lui ont demandé de définir. Et il n'a pas su. Donc, je pense qu'il faut... il faut faire attention. Parfois, vous avez les manuels scolaires et ça peut être judicieux de vous regarder, surtout si vous n'êtes pas familier avec le sujet, de regarder un petit peu les définitions, entre guillemets, B.A.B.A. scolaires et être sûr que vous savez tout définir. Ouais, l'adrénaline va jouer. Hein. Oui. On n'est pas fatigué. On va être crevé après. Vous allez être démoli après. Vous avez l'impression que vous n'avez plus de cerveau. Mais par contre, pendant le temps, vous allez pas vous sentir fatigué. Hein. Voire même, franchement, vous n'allez peut-être même pas sentir la soif ou la faim. Vous avez des débordements.
Moi, je sais que pour mon premier oral, j'étais un peu trop enthousiaste. Et je me souviens que, en fait, je ne sais pas, j'avais juste envie de montrer ma valeur. J'étais vraiment à fond. Et en fait, je me suis dit, je vais leur montrer que je suis à fond et que je veux l'agrégation. Et je me souviens que avant la phase des questions... la présidente du jury m'a dit, mais madame, qu'avez-vous? Enfin, donc, vous allez avoir une montée d'adrénaline normalement parce que c'est là où tout se joue, etc.
Le mental joue beaucoup.
Un ultra stress et je ne suis pas aussi. Je dois me forcer pour essayer de me montrer dynamique et tout ça parce que sinon je serais tétanisée. Moi, je fais de l'ultra stress pendant les oraux. Donc, vous faites comme vous pouvez à la rigueur, mais essayez de penser à ce côté dynamique et à montrer tout ça, parce que on n'est pas tous enthousiastes quand on voit le sujet, des fois.
Alors, Valérie, moi, j'étais pas enthousiaste avant de tirer le sujet. Moi, j'étais bouffée par le stress du moment où j'ai quitté l'hôtel jusqu'à tirer mon sujet. En marchant pour aller au lycée, je stressais énormément. Je pensais que j'allais m'auto-éliminer. Quand je suis arrivée, je tremblais. Ouais. Et vraiment, moi, la gestion du stress, c'était ce moment-là. Et en fait, c'est une fois que j'ai tiré le sujet, là, je sais pas, j'ai réussi dans ma tête à me dire, là, c'est parti, tu donnes tout. Mais j'ai eu très, très peur de moi. En tout cas, avant, j'étais vraiment pas bien.
Pendant la préparation, on oublie, ça revient quand on attend, quand on voit la porte de la salle s'ouvrir et qu'on se dit, ça y est, on passe. Hein.
Mais c'est vrai que le stress, vraiment, pour moi, c'est quelque chose de super important à travailler, qui exige de se connaître vraiment bien, en fait. Quels sont les moments où vous stressez et quels sont vos outils pour le surmonter? Moi, je sais que le stress me faisait perdre mon souffle et que du coup, j'haletais comme ça et ça rompait complètement mon discours. Et c'est de faire des exercices de respiration qui m'a beaucoup aidée. Et puis aussi, j'avais fait beaucoup de visualisations avant en m'imaginant passer l'oral, en me disant que les gens qui étaient en face de moi, c'était juste des collègues, en m'imaginant aussi un peu mes élèves dans la salle derrière les membres du jury. Enfin, vous n'êtes pas un élève face à des grands pontes. Hein. C'est des gens comme vous qui ont passé des concours il y a plus d'années que vous. C'est tout, quoi. Et pour certains, c'est des enseignants du secondaire parmi les membres du jury. Donc... il faut vraiment que vous aussi vous ayez dans la tête, si vous voulez, qui vous considère comme un potentiel collègue agrégé, que vous soyez vous-même convaincu que dans 3 jours vous serez agrégé, quoi. Enfin, c'est facile à dire, mais
non, mais après je pense que ça, mentalement ça joue de c'est comme pour les écrits, une fois que t'as le sujet, on se dit on y va, je donne tout. Là c'est pareil, en fait, on donne tout ce qu'on peut avec nos capacités, on essaie de gérer le stress du mieux qu'on peut, on essaie de jouer sur nos forces, on essaie surtout pas d'aller s'enfermer dans nos points faibles. C'est pour ça qu'il faut vraiment montrer ce que vous maîtrisez, tout ce qu'on vous a dit sur les documents que vous maîtrisez. C'est pareil pour dans la transposition, montrez ce que vous faites avec vos élèves et qui marche. N'allez pas proposer quelque chose sur lesquels vous êtes moins à l'aise ou que vous faites très peu. J'ai vu par exemple en oral une proposition de travail de groupe et en fait ça se voyait très bien que le collègue il faisait pas de travail de groupe puisqu'en fait il proposait de mettre ses élèves en groupe pour étudier un document qui était un paysage photographique. Donc en fait vraiment restez dans ce que vous maîtrisez, dans ce qui marche avec vos élèves, dans ce qui fait que vous êtes les bons profs, les experts que vous êtes. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes des professeurs, donc vous êtes des experts de l'apprentissage et de votre discipline d'un point de vue scientifique. Et c'est pas parce qu'on est dans une situation de concours qu'il faut oublier tous ces points forts. Et quand on va aux oraux, moi je le dis toujours, tout le monde est bon aux oraux de l'agrégation. Et ce qui fait qu'il y en a qui l'ont et qui l'ont pas, pour moi ça se joue à des détails. C'est pas comme au CAPES où on peut avoir des écarts énormes entre le niveau des candidats. Tous ceux qui vont aux oraux, ils sont bons. Donc si vous y êtes, vous êtes bons. Là, ce qui reste à faire, c'est de transformer l'essai.
Wow. Ouais, il y a pas mal de. C'est vrai que j'ai pas été très précise sur la transposition. La transposition, c'est la présentation d'une séance que vous replacez dans la séquence que vous replacez vous-même dans votre progression annuelle. Et donc vous présentez votre séquence, le matériel que vous utilisez, les documents sur lesquels vous appuyez, ce que font les élèves, un peu comme à l'épreuve 3. Mais faut quand même tenir un quart d'heure quoi pour la transpo et faut vraiment vraiment avoir de quoi remplir. Et oui, faut aller jusqu'à l'évaluation. En collège, prévoyez la différenciation. Et même si dans votre temps de préparation vous avez pas eu le temps d'y penser, mettez-vous une diapositive différenciation et puis vous improviserez devant le jury en disant ce que vous faites habituellement avec vos classes en collège. Oui, pour les élèves 10, on mettra telle et telle et telle chose en place. Même si vous ne l'avez pas écrit sur votre brouillon, ça vous prendra une minute de plus à l'oral et ce sera efficace. Moi, on m'avait conseillé en préparation 25 minutes de leçon et 15 minutes de transpo.
Ouais, c'est mieux. Là, je reprends ouais, soyez toujours les plus précis possibles. Alors, ça, c'est une séance, mais vous devez l'intégrer dans une séquence. Si, par exemple, vous n'êtes pas obligé de faire toujours l'activité, comme on dit, une activité d'ouverture, ça peut être une troisième séance. Vous en avez déjà travaillé deux. Il faut aussi dire que vous avez déjà travaillé cette compétence-là, mais que vous la retravaillez à ce moment-là de l'année, justement parce que c'est une séance de fin d'année. Il faut vraiment rester à l'aise. Donc, c'est pas parce que vous êtes en géo que vous devez obligatoirement proposer un croquis. Moi, je sais que c'était pas mon truc. C'était déjà la croix à la bannière pour en mettre dans ma disserte de géo. Donc, j'avais sûrement pas travaillé la transpo pédagogique sur le croquis de géo. Donc, moi, je proposais de travailler généralement l'écrit. Et puis, je vais faire un peu toujours la même chose, hein, soit à l'écrit ou aux oraux. Je faisais un travail de groupe et je faisais écrire pour construire sa pensée, de l'argumentation, voilà, et je faisais toujours la même chose, mais je ne me suis pas engouffrée dans des cartes topographiques ou des schémas, parce que j'étais pas à l'aise là-dessus. Et justement, tant mieux, parce que j'ai eu aucune question à l'oral sur ces sujets-là.
Il faut vraiment... vraiment
la co-animation, bof, comment...
Non.
On m'a toujours dit, il vaut mieux prévoir votre truc à vous complet, et pas dire, je vais solliciter prof d'art plastique pour faire ça. Faut pas genre solliciter tout le collège pour votre séance à vous, quoi.
Il faut que vous soyez concret. Ce dont a besoin de voir le jury, c'est le professeur que vous êtes. Et encore une fois, je trouve pas encore ce terme de expert de la didactique et des savoirs, mais ça fait partie de nos compétences, des compétences du professeur. Quand j'avais assisté aux oraux la veille de mes oraux, donc j'avais vu deux oraux, un oral où scientifiquement le candidat avait plutôt bien réussi. Mais didactiquement, c'était pas très bon. Et à l'inverse, j'avais vu une collègue qui était passée sur Charles Quint, l'Espagne et le monde. Déjà, c'est compliqué, les sujets à trois entités. Et scientifiquement, on voyait qu'elle était pas à l'aise avec le sujet. Par contre, elle avait fait une transposition didactique très pertinente. Elle avait même montré un document d'accompagnement des élèves, une sorte de grille d'évaluation avec les critères qu'elle donne aux élèves. Elle avait eu le temps de préparer ça. Et en fait, à ce moment-là, moi, je me suis dit, on peut nous pardonner de ne pas tout savoir d'un sujet scientifique parce qu'on peut pas tout savoir, mais je pense qu'on nous sanctionnera lourdement si on propose des transpositions qui sont un peu bancales alors qu'on est dans le métier, qu'on est des professionnels. Donc vraiment, ce moment de la transposition, il faut vraiment le soigner, il faut être précis, quels sont vos objectifs, il faut penser à la progressivité des apprentissages. Si vous avez un niveau seconde, il faut mettre en lien avec le passage de la troisième à la seconde. Comment en fait vous faites travailler, je sais pas moi, comment on appelle ça en, en, au lycée, mais là, produire une argumentation historique ou géographique. Comment vous mettez ça en place en lien avec tout ce que les élèves ont fait avec le développement construit? Il faut penser à l'évaluation. Comment vous accompagnez vos élèves? Enfin, il faut être vraiment, vraiment précis. Parce que je pense que là aussi, en fait, c'est un critère de sélection et d'élimination pour certains candidats. Ne soyez pas abstrait, montrez vraiment. Il faut que, surtout si vous avez un inspecteur, lui, il va vouloir du concret, il va vous les poser les questions concrètes. Comment vous faites si l'élève n'y arrive toujours pas à écrire son paragraphe, etc. Il faut montrer tout ça.
Je rebondis sur ce que disait Valérie. L'avantage à l'oral, c'est que vraiment, vous choisissez très librement les compétences ou les capacités que vous voulez faire travailler aux élèves. Donc, choisissez celles sur lesquelles vous êtes à l'aise. Mais vraiment, vous deux, on doit vous voir faire travailler des compétences ou des capacités précises aux élèves. Et c'est pour ça que présenter toute une séquence, ça me semble un peu casse-gueule, pardon pour la vulgarité, parce que dans une séquence, vous travaillez plusieurs capacités et plusieurs compétences. Et le jury veut vous voir expert dans la transmission de telle capacité, de telle compétence. Vous pouvez en avoir deux, une principale, une secondaire, mais vous devez vraiment montrer comment vous faites pour que les élèves, ils acquièrent telle capacité et telle compétence.
Il faut être plus détaillé, c'est-à-dire que si tu es sur une séquence, tu vas survoler, alors que vaut mieux faire une séance et vraiment bien détailler. N'hésitez pas à vous dire ce que vous faites pendant ce temps-là, parce que vous faites du travail de groupe, mais vous faites quoi en fait? Vous n'êtes pas parti boire un café en fait, donc voilà, vous circulez, vous faites de l'aide, vous proposez des choses, voilà comment vous vous situez en fait, ça aussi, hein, la place du prof, hein, faut pas oublier. Ouais. L'aspect peut tomber, je crois pas, je crois
non,
que
non, non, l'aspect
j'ai été posé plusieurs fois.
Dans le côté concret.
Et moi comme Valérie, quel que soit le sujet, par exemple, moi, je me considère pas très forte pour enseigner la compétence d'analyser et comprendre un document. Donc, jamais je proposais de transpo avec ça comme compétence principale. J'étais comme Valérie, c'était toujours écrire, pratiquer l'oral ou le travail de groupe, parce que c'est mes compétences fortes, c'est là où je me sens forte en tant qu'enseignante. Et la carto, c'est pareil. Pour moi, c'est un piège. Donc, vraiment, restez dans ce que vous maîtrisez. Parce que sinon, du coup, vous allez vous handicaper. En revanche, si vous maîtrisez la carto, ouais. Moi, j'ai une copine qui maîtrisait super, super bien la carto et qui était capable de proposer des transpos où vous savez, ces transpos où on construit progressivement au fil du plan de la leçon la carte et son croquis. Et ça, en fait, c'est presque jackpot si vous le maîtrisez superbement bien.
Ouais, dans le côté concret, n'hésitez pas à produire presque les feuilles que vous distribueriez aux élèves. La candidate qui m'avait coachée, qui était passée l'année avant moi, elle se faisait des feuilles A4 avec le titre, les questions, les documents, et même un corrigé d'évaluation, une grille d'évaluation. En fait, le jury doit vraiment s'imaginer dans votre classe. Donc, le côté écrit, et voilà, ça peut vraiment aider à être concret.
Je comprends pas
la pose.
Non, je comprends pas
la position du prof dans notre formation. On nous a déconseillé Bucheton car elle fait polémique. C'est ouais. Qui Bucheton?
Ouais, j'avoue. Je crois qu'il y a que PowerPoint d'après ce que Caroline disait un peu plus tôt.
Alors sur les ordinateurs, vous avez toute la suite Office. Vous voulez utiliser les autres logiciels, vous pouvez. Par contre, je sais pas si vous pouvez passer d'un fichier à l'autre devant le jury. Donc moi, en fait, j'utiliserais à votre place les autres logiciels pour faire des choses un peu plus compliquées. Je sais pas, Excel, si vous voulez faire un graphique, par exemple. Mais après, de faire une capture d'écran et de le mettre dans votre diaporama. Enfin, voilà, ou Word, si vous voulez faire un truc qu'on peut faire que sur Word et pas sur PowerPoint. Mais après, vous faites un copier-coller dans votre diaporama. Comme ça, vous êtes tout le temps sur le même fichier pendant l'oral. Parce que sinon, enfin, après, je pense que vous avez le droit de passer d'un fichier à l'autre. Mais à mon avis, c'est un peu une occasion de se perdre.
Après, enfin, si on vous a déconseillé, ne le fais pas. Après, si on te pose la question, tu sauras qui c'est, tu sauras qu'elle a défini des postures de prof. Mais c'est sûr que vaut mieux rester généraliste et entre guillemets vouloir pouvoir plaire à toutes les écoles. Puis vaut mieux rester classique. Hein. Moi, il y en a un, il était super fort dans ma pro, mais on le voyait tous admis dès la première fois. Il a voulu proposer un jeu de rôle. L'inspecteur a détesté et en fait, il s'est retrouvé avec une très sale note hein, parce que enfin, il a proposé quelque chose dont il n'était pas familier. Après, il a fallu justifier pourquoi est-ce qu'il avait créé ce personnage-là dans son jeu de rôle et pas un autre. Enfin, voilà. Après, l'inspecteur, il a été à fond la caisse. Donc, vaut mieux rester quand même assez classique. Vous pouvez essayer de vous démarquer par l'originalité, mais enfin, soyez.
Vous pouvez faire des liens avec les examens aussi. En terminale, vous pouvez travailler l'oral en lien avec le grand oral. Au collège, très progressivement, on se tourne vers le développement construit. Voilà, n'hésitez pas. Enfin, en tout cas, moi, les questions qui m'ont été posées, il y a un oral où on m'a posé plein de questions sur ma transpo et un oral, pas du tout. Mais toutes les questions qu'on m'a posées sur ma transpo, c'était des questions de vocabulaire didactique, de carte mentale, schéma fléché. Bon, j'ai fait une grosse boulette, c'est écrit dans les rapports du jury qu'il ne faut pas employer le terme carte mentale. Des questions de vocabulaire donc et des questions de lien avec les examens quoi. Est-ce que ça au brevet on peut demander ce genre de choses quoi.
Moi je pense que pour la transpo vraiment c'est important de réfléchir à la progressivité des apprentissages selon que votre séquence elle arrive en début, milieu ou fin d'année ou qu'elle arrive en seconde, première, terminale, pareil, sixième, cinquième. Quatrième, troisième, ça c'est vraiment important parce que c'est le concours est joué sur des petits détails et c'est des choses auxquelles certains collègues ne pensent pas et c'est comme l'évaluation, il y a plein de collègues qui proposent une transpo sans proposer d'évaluation. Or si vous proposez pas d'évaluation, votre projet pédagogique il est pas abouti et en fait on voit pas comment vous évaluez la maîtrise des connaissances et des capacités par les élèves. Donc vraiment, la progressivité, ça me semble vraiment important, en tout cas, de montrer que vous avez fait une réflexion par rapport à ça.
Il y a plusieurs types d'évaluations, là, ça ne me reviendra pas en tête, mais...
Formative.
Ouais, voilà, il y a de toute façon, je crois, une fiche EBSCO là-dessus que vous pouvez relire. Donc, vous n'êtes pas obligé de proposer une évaluation type interro DS. Vous pouvez les évaluer d'une autre manière. Enfin, ça, c'est vrai que c'est un peu à travailler en amont. Hein.
Vous pouvez faire une évaluation par les pairs.
Ah oui. Ça, ils aiment bien. Mais ça peut justement être sympa dans le travail de groupe, etc. Et voilà, passer pour une évaluation. Il y a vraiment pas mal d'options possibles sans être justement. Mais par contre, si vous commencez à faire des évaluations un peu originales, ils risquent de poser... Mais de toute façon, ils peuvent poser des questions des évaluations. Ça, c'est un peu à la mode. Les grilles d'évaluation, les grilles de progressivité, ça... Même en inspection, hein, ils vont à fond là-dessus.
Ouais. Alors, il y a une question. Quand on ne connaît pas bien le collège, peut-on s'inspirer des fiches d'activité proposées par certains éditeurs? Alors, moi, je dirais que non, parce que ça, les fiches d'activité, les inspecteurs n'aiment pas. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est vraiment de maîtriser, enfin, de connaître les compétences et de transposer des choses que vous faites en lycée, en collège, en veillant bien évidemment que ce soit adaptable. Je sais pas, moi, produire une argumentation, c'est tout à fait quelque chose qu'on peut faire en collège, mais bien évidemment, on va pas demander, 3 pages comme en lycée, on va peut-être demander 5 lignes, etc. Moi, j'aurais plutôt tendance, ma stratégie serait de rester dans ce que je maîtrise en lycée et le transposer, l'adapter pour le niveau collège en veillant bien que ça coïncide bien avec les capacités, enfin avec les compétences.
Après, si vraiment vous êtes très très à la bourre, moi dans un oral blanc sur Rome. C'était en sixième, j'ai jamais eu de sixième et j'étais très très à la bourre pour ma transpo et je savais vraiment pas du tout quoi faire et je m'étais dit bah voilà, il me reste 20 minutes, faut bien que je propose quelque chose et donc dans un manuel qui avait bien en tête travail de telle compétence, il y avait une activité qui me semblait être utile. Alors surtout vous prenez pas cette page, mais j'avais pris les documents que j'avais mis dans mon diaporama et puis j'avais refait un peu les trucs à ma sauce pour que ça se voit pas que j'avais pris ça dans un manuel. Ça, c'est vraiment hyper important parce que vous promenez une page de manuel, c'est sûr que ça va pas satisfaire le jeu. Donc, au moins, camoufler si jamais vous n'avez pas d'autre solution que faire ça.
ce qu'aiment bien aussi les IA hyper, c'est que quand vous avez une double page de manuel, c'est que vous portiez un regard critique sur les documents. Donc vous leur expliquez que je sais pas, moi, dans la double page, vous aviez 5 documents, il y en a un que vous avez choisi d'écarter et qu'à la place, vous prenez un autre document parce qu'il vous semble plus pertinent pour transmettre ce que vous voulez transmettre. C'est vraiment... en fait, vous êtes aussi évalué sur votre compétence de professeur. Donc, comment vous construisez les cours, comment vous pensez la didactique. Et ça aussi, ça, il faut le montrer. Et je non, pense
et
que...
on m'avait dit d'éviter de prendre une double page.
Moi, oui.
C'était vraiment ne pas le faire, que c'était justement probitif hein, pour avoir l'agrégat. Hein.
On va peut-être avancer un petit peu. Leur tourne. Et je me disais, pour les questions que peut poser le jury, on pourrait peut-être en 2 minutes lister un petit peu les questions qui nous ont été posées. Moi, j'ai toujours eu un historien et un géographe pour chacun de mes oraux. Donc, j'ai eu pour mon oral d'histoire, j'ai eu des questions de géographe et pour mon oral de géo, j'ai aussi eu des questions d'histoire. Voilà, et ça peut être un peu en lien ou pas en lien. C'est un peu un moment question pour un champion, quoi. Une question, alors soit je connais la réponse. Est-ce que vous connaissez le géographe de citez-moi des géographes des villes d'Afrique de l'Ouest. Citez-moi des géographes de villes d'Afrique du Nord. Citez-moi des géographes de villes d'Afrique du Sud. Et après, ça peut être, vous pouvez enchaîner, je ne sais pas. Et c'est pas grave du tout. Et dites-vous que de toute façon, quand ça passe au suivant, vous passez à autre chose. Et quand ils vont chercher dans les coins, souvent c'est aussi que en fait surtout ce qui est maîtrise du sujet, vocabulaire, vous êtes solide. Donc ne paniquez pas s'ils vous posent des questions qui vous semblent s'éloigner un peu du sujet. Des questions qui se posent en lien avec le sujet de la leçon, plus ou moins, moi sur ma leçon d'histoire sur Charlemagne, on m'a demandé des noms de géographes de l'époque de Charlemagne. On m'a demandé de m'appuyer sur des capitales médiévales, donner des exemples d'aménagement de capitales médiévales, parce que j'avais, dans ma transposition, travaillé sur Aix-la-Chapelle. Donc, bon, oui, ça a un lien, mais un peu tiré par les cheveux, quoi. Je sais pas, vous, qu'est-ce que vous aviez eu comme question? Moi, j'avais eu l'impression d'avoir eu des questions assez pointues ou des questions de vocabulaire.
Des questions pointues, des questions développées. Parfois, c'était reformuler ce que j'avais dit pour être bien sûr que je voulais le dire. Des questions de définition. J'ai jamais eu en 3 ans aucune question d'auteur. Alors, je sais que ça tombe quand même, mais j'en ai jamais eu. J'ai eu beaucoup de questions de définition. Alors, est-ce que c'est bon signe ou pas bon signe hein? Mais bon, j'en sais rien. J'ai eu des questions pointues, hein, parfois on dit que normalement ils sont pas censés le faire, mais j'en ai eu quand même à chaque oral, hein, des questions vraiment où ils vont chercher assez loin. Alors je pense que c'est pas éliminatoire non plus comme question, mais c'est vrai que jamais, c'est pour ça que moi j'aurais tendance à dire passez pas 10 000 temps sur l'historio ou les machins, parfois ça sert absolument à pas grand chose. Hein. Par contre, si vous savez pas répondre entre guillemets à une question de connaissance de base, mon avis, c'est plus, ça peut plus vous éliminer que si vous connaissez pas le dernier auteur à la mode qui a fait une thèse sur quelque chose. Hein. Enfin, après, c'est mon avis personnel, mais c'est vrai que j'en ai jamais eu de question. J'ai jamais eu non plus de question du géographe qui pose des questions de géographie pendant l'histoire, hein, j'avoue. Alors, j'ai eu un géographe qui a essayé de poser des questions sur la transpo pédagogique. C'est pas rigolo, par contre. Parce que ça se voyait qu'il connaissait pas grand chose. Et l'inspecteur à côté lui faisait les gros yeux, genre « qu'est-ce que tu me fais ?» Mais on doit se débrouiller, en fait. Parfois, on m'avait conseillé, alors j'ai jamais réussi à le faire, mais on m'avait dit « je ne connais pas la réponse à la question, mais je pense que j'irai chercher la réponse dans tel outil, par exemple. » Je sais pas, le site de l'INED, de n'importe quoi. C'est-à-dire que parfois, si vous ne vous rappelez pas quelque chose, vous pouvez vous dire « je sais pas là tout de suite avec le stress, mais je sais que je pourrais aller chercher ma réponse dans ça et que je la trouverai. »
Moi, c'est comme vous. En fait, on a un peu de tout. Il y a des questions qui nous demandent de préciser. Il y a des questions qui vont porter sur des aspects qu'on a développés, etc. Moi, je suis tombée en géographie en quatrième. Je suis tombée. Le sujet, c'était la République sud-africaine. 2 points. Une grande puissance africaine. .. En quatrième. Et là, j'avais eu plein de questions de culture générale. J'avais une question sur, alors je savais pas que j'avais la réponse, mais est-ce que, enfin, à quel organisme international, enfin, l'Afrique du Sud a essayé d'intégrer et pourquoi, enfin voilà, plein de questions comme ça. J'ai eu beaucoup de questions sur la stratégie de l'Afrique du Sud en tant que puissance africaine, mais aussi puissance qui essaye d'avoir une influence à l'échelle mondiale. Et j'avais l'impression, oui, d'avoir plutôt des questions de culture générale, parfois très précises et parfois très, très vagues. Moi, dans les questions qui m'ont vraiment marquée, c'est le deuxième oral où j'ai eu un hyper qui m'a enchaîné des questions avec des termes très proches. C'était par exemple, à chaque fois, il me demandait quelle est la différence entre ségrégation et fragmentation, quelle est la différence entre mise en commun et correction, quelle est la différence entre travail collaboratif, travail coopératif.
Ils adorent les
quatre ou cinq comme ça. Ouais. Et en fait, à chaque fois, moi, dans ma tête, j'avais envie de l'insulter, mais en fait, à chaque fois, je souriais et dans ma tête, sur le travail coopératif, collaboratif, je savais pas. Et dans ma tête, je me suis dit, mais on s'en fiche, les élèves, c'est du travail de groupe. Mais en fait, tu souris et t'essaies de répondre. Et quand tu sais pas, tu dis que tu sais pas. Moi, j'ai deux stratégies pour essayer un peu de que ça se passe bien. C'est si je n'ai pas bien compris la question, c'est que je la reformule. Donc en fait, c'est vous me demandez si, et en fait, ça me permet de réfléchir en même temps. Vous me demandez si l'Afrique du Sud est une vraie puissance ou une fausse puissance. Et en fait, en même temps, ça me permet, avec cette stratégie, ça me permet de bien réfléchir et d'anticiper ma réponse. Et après, quand je ne sais pas, je fais des hypothèses, mais je le dis. Je dis, je ne suis pas certaine, mais je suppose que ça aussi, et c'est ce qu'ils attendent de nous, parce que quand les élèves nous posent des questions, on n'a pas réponse à tout. Et parfois, parce qu'on a un certain nombre de connaissances, on leur dit, écoute, je ne suis pas très certain, mais je pencherai plutôt pour ça, plutôt que pour autre chose.
Ah, par contre, vos réponses ne doivent pas durer plusieurs minutes, hein, parce que si vous coupez en vous disant, on arrête le blabla, et puis voilà. Moi, ça ne m'est pas arrivé, mais je sais qu'ils sont assez énervés s'ils voient que le candidat essaye de gagner du temps, de jouer la montre.
N'ayez
moi,
pas
je
peur
tombais sur un jury. Ce qu'il a fait, ça m'a pas trop plu, c'est que il a jugé que voilà, il y avait les 40 minutes de passé et il m'a coupé. Donc, alors moi, mon chrono en plus, j'avais 39 minutes 40. Hein, pour moi, il me restait 20 secondes. Hein, j'étais pas contente. Et j'étais en train de dire en évaluation, je proposerai. Et par exemple, lors de mon entretien, ils m'ont coupé en plein milieu de ma phrase. Ils m'ont pas laissé finir. Et en plus, ils m'ont pas posé les questions sur ce que j'aurais proposé en évaluation. Et par contre, dans mon rapport de jury, puisque c'est une des deux années où je l'ai pas eu, ils m'ont dit il n'a pas proposé d'évaluation. Donc voilà, vous pouvez tomber sur des jurys qui sont un peu à cheval quand même sur dans les 40 minutes, vous devez avoir proposé voilà un truc. Et moi, il m'avait proposé de pas avoir proposé de débat. Mais il m'avait pas non plus donné l'occasion. Parce que moi, on m'avait dit, ouais, peut-être tu peux dépasser 40 minutes et 30 secondes, peut-être une minute, ils peuvent te la laisser, tout ça. Moi, ils ne m'avaient pas du tout laissé.
Oui, moi, on m'avait dit, sois bien attentive au moment où le jury déclenche le chrono. Parce que si toi, tu ne l'as pas décroché à ce moment-là, bah, y a forcément un décalage de 10-15 secondes le temps que toi, tu l'enclenches. Donc, ça veut dire qu'il faudra que tu t'arrêtes à 39-45. Mais effectivement, il coupe à 43. Ouais, je voulais vous dire aussi de pas paniquer si on vous fait répéter des choses que vous avez déjà dites. Moi, il y a au moins 4 ou 5 questions qui m'ont fait répéter des choses que j'avais déjà dites, de redéfinir des définitions que j'avais déjà données. Donc, je me suis dit qu'ils étaient fatigués ou je sais pas, mais voilà, ça arrive, hein, ne paniquez pas. C'est peut-être pour reprendre, pour reposer les bases et partir dans une direction où vous posez des questions sur l'émergence. Ben, on commence par vous faire redéfinir l'émergence et puis après, il y aura d'autres questions par la suite. Mais en tout cas, c'est très habituel qu'on vous fasse répéter des choses que vous avez déjà dites. Non, on peut pas avoir son téléphone. Je vous conseille d'avoir un chrono et une montre ou 2 chronos parce que ça arrive tous les ans que des candidats se trouvent en rate de chrono au moment de l'oral.
Alors, moi, je déteste les chronos. C'est vrai, tout à l'heure, j'ai parlé d'un chrono, mais en fait, j'avais acheté un truc de base. J'avais acheté un minuteur de cuisson. Et en fait, c'est bête, hein, mais il y a deux boutons seulement. Marche, arrêt. Et en fait, bah, quand je déclenchais, bah, voilà, c'était obligatoirement le temps passé. Et j'adore, et je l'ai toujours, mon minuteur de cuisine. Donc, je n'avais pas de chronomètre pour pas me galérer dans les touches et tout ça. Donc, j'avais mon minuteur de, bon, un tout petit truc, hein, minuteur de cuisine. Donc, si vous voulez un conseil, c'est super pratique. Et il n'y a qu'une touche on-off et on ne risque pas de se planter. Voilà, il ne risque pas de sonner parce qu'on a mis une alarme de quelque chose. Parce que les accidents chronométriques, ouais, en effet, on en entend pas mal d'histoires.
Ça nous fait une bonne transition vers notre deuxième partie qui, je vous rassure, sera beaucoup plus rapide que la première, enfin j'espère. Mais c'est sur les conseils qu'on peut vous donner pour votre préparation jusqu'à l'oral.
C'est quand les oraux?
Bah, ça doit être zone B. Donc, zone B, c'est 10 avril, les vacances. Donc, je pense que ça doit démarrer comme ça.
D'accord, c'est zone B.
Ah ouais. Bon, bah, c'est qu'on est en vacances plus tard.
Donc là, pour les conseils pour votre préparation jusqu'aux oraux, premier conseil, c'est vraiment de vous entraîner. Là, on parle de chrono, l'entraînement, on comprend des choses hyper matérielles, on comprend des choses... des aspects de gestion du stress, donc vraiment voilà, entraînez-vous au maximum. En fait, dans le temps qui vous reste, vous n'allez pas devenir une bibliothèque ambulante et vous ne pourrez pas, dans tous les cas, acquérir un savoir encyclopédique que vous n'avez pas aujourd'hui. Donc, pour moi, le meilleur usage du temps que vous pouvez faire, c'est vraiment de vous entraîner et de maîtriser la base, c'est-à-dire en fait ce qu'il y a dans les manuels scolaires des élèves, quoi. Reprenez des manuels de 6e, de 5e, de 4e, de 3e, etc. Et commencez vraiment par cette base-là, tout en menant des entraînements à côté. Je vous ai mis une liste de sujets, il y en a une sur c'est l'épisode 14, si vous voulez, il y a une liste de sujets qui peuvent vous servir. Si vous voulez, je peux vous remettre le lien. Est-ce que vous avez des conseils pour les entraînements, Valérie, Mouniati?
De quoi? Faites-en le maximum possible, hein, les entraînements. Hein. Je veux dire, si vous êtes en formation et qu'on vous en propose, alors surtout en plus qu'on vous en propose dans, par exemple, vous êtes au collège et qu'on vous en propose au lycée, faites un maximum et essayez, même si vous entraînez par vous-même, parce que c'est possible, de pas tricher. C'est-à-dire que vous ne dites pas, bon, bah là, je prends une heure de plus, mais le jour J, je serai calée, j'aurai l'habitude. Bah non. En fait, parce que au contraire, vous entraînez en 5 heures, alors le quart d'heure de découverte du sujet, le 45 minutes maximum en bibliothèque, vous arrêtez en 5 heures et au contraire, vous entraînez à faire un peu d'improvisation. Si vous n'avez pas fini votre grand 3C, que vous n'avez pas fini votre transpo ou votre conclusion, moi, honnêtement, la plupart du temps, ma conclusion, c'était 3-4 mots et j'improvisais pour essayer de la tenir quelques minutes. Et le jury s'en apercevait sûrement, hein, d'ailleurs, mais du moins, qu'elle est là et ne vous en tienne pas rigueur. D'accord ? Donc, entraînez-vous plutôt à faire de l'impro plutôt que vous rajouter du temps en vous disant « Bon, ben là, je fais ma pause pipi, mais je l'enlève de mes 5 heures. » Ben non, parce que le jour J, si vous avez envie de faire pipi, ben, ce sera compté dans vos 5 heures. D'accord ? Donc, entraînez-vous, vous ne faites pas de pause repas, vous mangez parce que vous allez peut-être essayer de manger le jour J et boire. Et puis, vous voyez ce que ça donne. Si vous avez trop faim, ben, c'est qu'il vous faut quelque chose de plus. Si voilà, vous êtes un peu noué, bah, vous savez que vous n'avez pas forcément besoin de trop manger, tout en sachant que vaut mieux avaler un petit quelque chose, même si c'est une pomme pote ou une crème. Moi, je sais que j'ai carburé à la crème dessert Mont Blanc. Par résultat, je peux plus la saquer. J'en mange plus du tout. Mais c'est en fait manger un petit truc sucré pour vous redonner un petit peu de pêche au bout de vos 5 heures avant d'y aller, si vous avez le temps, ou je sais pas, mâchouiller quelque chose. C'est vrai que ça donne un peu de sucre, ça fait pas de mal. Mais entraînez-vous vraiment en 5 heures et ne dépassez pas.
Et là, je vois une remarque. Donc, s'entraîner plutôt que de continuer à ficher. Alors, à un mois des oraux, moi, je vais être un peu catégorique, mais après, ça dépend où est-ce qu'on en est. Moi, pour moi, un mois, c'est il faut s'entraîner. Si on a des fiches, bah, il faut les relire. Nous, en 2019, on avait beaucoup de chance parce que c'était très animé sur le groupe et du coup, on était dans du fichage collectif où en fait on s'était réparti des thèmes, des sujets et on avait proposé comment dire, des fiches sous la forme de ce qui est demandé à l'oral. Et en fait, du coup, on pouvait y avoir accès. Moi, je sais que j'en avais fait 2, mais j'avais accès à 20 fiches. Et une des fiches m'a aidée pour mon deuxième oral parce que je suis tombée sur l'immigration et je me souviens que sur une des fiches, j'avais lu le spécialiste de l'immigration et je sais que si j'avais pas eu ces fiches, j'aurais pas su tout de suite que c'était ce bouquin-là qu'il fallait chercher. Donc, soit vous avez des fiches de ce type-là, sinon c'est EduSchool ou les fiches du livre du professeur de certaines disciplines. Ceux du livre scolaire sont très bien.
Des fiches faites du large, collège, en fait, fichez pas des bouquins précis ou des documents entiers. Faites large, lisez un petit peu, regardez des reportages.
C'est ça.
Faites large, en fait.
Faites large.
Pour avoir des idées surtout, parce que si vous n'avez pas une connaissance, on va dire, une des grosses connaissances et qu'on vous pose la question, vous n'allez pas définir mangrove, et voilà, vous allez vous faire balayer pour des questions que vous êtes censé quand même savoir. Donc, lisez des manuels. Moi, à la fin, je lisais des manuels. Sur les programmes, je lisais les leçons, je regardais les activités.
Des petites vidéos.
Pour faire, entre guillemets, une culture générale sur des thèmes que j'enseignais pas parce que j'ai toujours enseigné en collège. Faites aussi bien travailler votre transpo. Ça, c'est intéressant. Plus que plus de fichiers, entraînez-vous à créer des transpos, à vous mettre très à l'aise sur les évaluations, sur des choses comme ça. Plus regarder des reportages le soir, puis commencer à vraiment penser à votre, comme on a dit pour les écrits, à votre alimentation, à votre sommeil, essayer de vous garder un temps comme ça, parce que essayer d'arriver pas trop crevé non plus en ayant plein la tête.
Et moi je rajouterais vraiment, vraiment aller regarder des vidéos. Vous savez, des fois il y a des vidéos de profs qui enseignent en lycée et qui résument très bien les grandes thématiques. Enfin, moi, je me souviens qu'à l'époque, il y avait un thème, là, socialisme, etc. Affreux, ce thème-là. Ma première approche pour entrer dans ce thème-là que je connaissais pas, c'était regarder la vidéo d'un prof, déjà, pour essayer de savoir de quoi ça parlait. Et vraiment, surtout, ne fichez pas, aller vers l'entraînement. Et cet exercice de prendre des sujets une fois par jour et de les travailler, enfin, d'y réfléchir 15 minutes. Une fois par jour, vous prenez une heure et vous réfléchissez à 4 sujets. Et à chaque fois, vous essayez de bien définir les termes, de ne rien oublier. À chaque fois, vous essayez de proposer une problématique, de réfléchir aux auteurs, aux docs photos que vous pourriez prendre et à ce que vous pourriez proposer en transpo. Cette gymnastique-là, elle va vous aider.
Après, ce qui peut être, et c'est pas du temps perdu, contrairement à ce qu'on pense, c'est passer du temps en bibliothèque pour connaître les outils. Feuilleter, par exemple, moi je vous dis, si j'avais pas ouvert le dictionnaire de la Grande Guerre, je savais même pas qu'à l'intérieur il y avait une des thèmes sur 1917, les intellectuels et la Grande Guerre. Donc dans les, essayez de vous dire, pareil, il y a un des dictionnaires du Moyen Âge, c'est beaucoup par thème, les villes, les bourgeois, etc. Donc ça peut être sympa de connaître des dictionnaires de géopolitique, dictionnaires des intellectuels. Il y a plein de dictionnaires possibles, d'outils possibles. Par exemple, il y a entre les Hachette Éducation et les Carré Histoire, ils ont des approches différentes et ça peut être sympa de savoir, hein, je sais pas moi, une bêtise pour l'affaire Dreyfus, où est-ce que vous allez aller chercher si vous tombez sur l'affaire Dreyfus. Alors peut-être que vous n'aurez pas le temps de lire jusque pendant un mois, mais vous saurez où trouver. Moi c'était bête, mais quand j'ai vu Homère, l'Iliade et l'Odyssée, je savais déjà quoi prendre. Je savais déjà que dans le dictionnaire de l'Antiquité, il y avait quelque chose. Je savais déjà que dans le monde grec antique, le manuel de premier cycle, Hachette Édu, il y avait au moins une double page. Je savais déjà ce qui existait. Donc, passer du temps en bibliothèque, une bonne bibliothèque et connaître les atlas autrement. Parce qu'en fait, sinon, vous allez, non seulement vous allez peut-être tomber sur un sujet que vous n'aimez pas trop, vous n'y connaissez pas, mais en plus, vous ne saurez pas vers quel outil vous tournez parce que ça vous semblera pas familier, en fait. Vraiment, connaissez plutôt les grands outils, les grands manuels généraux pour trouver vos informations le jour J. Ça peut être, pour moi, un temps vraiment utile.
Oui, non, mais dans les 15 minutes, quand vous êtes en salle, il faut que vous sachiez déjà quels sont les 2-3 ouvrages importants que vous allez prendre, en fait. Il faut que vous le sachiez, il ne faut pas que vous y réfléchissiez quand vous serez en bibliothèque. Et ça suppose en fait de déjà répertorier, comme vient d'expliquer Valérie, sur tel sujet, je peux prendre ça, etc. Et pour vous rassurer, moi, je dirais que ce concours de l'agrégation interne, en fait, il sanctionne pas notre connaissance exhaustive de tous les faits scientifiques en histoire et en géographie. Il sanctionne notre capacité de synthèse. C'est ça qu'il nous demande. Et quelque part aussi notre culture générale cumulée jusqu'au moment où on passe le concours. Ce qu'on nous demande, c'est pas d'être un puits de science sur un sujet. Ce qu'on nous demande, c'est de traiter un sujet de manière problématisée, de proposer des éléments de réflexion, de l'analyser, et c'est ça qu'on nous demande. Et je pense que en s'entraînant et en essayant en fait de s'habituer au maximum à l'épreuve et à toutes ces contraintes, je pense que c'est la bonne voie en tout cas pour réussir ce concours.
Ça a bien conclu, Mouniassi. Je pense qu'on peut peut-être terminer là-dessus.
Ouais, je vais vous laisser sinon.
Ouais, bah, de toute façon, tout le monde va y aller, mais
ouais.
C'est sympa, hein.
Ouais, en tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser sur le groupe Facebook, sur le compte Twitter de Pastona Grec, ceux qui viennent là par Twitter. En fait, on répond toujours aux questions hein, si vous nous en posez au fur et à mesure. Donc, surtout, voilà. Alors, vous êtes une grande communauté de candidats grâce à l'entraide.
Oui, croire à fond, c'est aussi ça l'important. Hein. Par contre, c'est comme on l'avait dit pour les écrits, vous êtes des warriors jusqu'au bout, le jour J et tout ça, il faut croire en vous. Hein. Si vous arrivez défaitiste, vous laissez votre place à quelqu'un. Mmh. Donc, non, vous y croyez et vous avez toutes les chances possibles et vous êtes aussi légitime que le voisin. D'accord ? Donc, vous y croyez. Alors, grosse gaine d'atus, hein, on vous souhaite bon courage et puis essayez de pas trop y penser hein, jusque-là. Mais bon, c'est impossible, mais essayez de vous occuper l'esprit. Et puis, bah, voilà, croyez en vous si vous faites partie des chanceux. Et puis, après, de toute façon, c'est une chance sur deux. Hein. Donc, on vous joue à fond votre chance. Bonne soirée.
Bonne soirée, tout le monde. À bientôt.
J'espère que tous ces conseils vous ont été utiles. Merci encore pour votre fidélité. Bonne préparation. À bientôt.